Panorama.
Panorama.
République tchèque.
Bonjour, dans le panorama d'aujourd'hui, nous allons parler d'un de nos sujets favoris, les relations franco-tchèques, ou plutôt franco-tchécoslovaques. Jiří Hnilica est historien, enseignant à la faculté de pédagogie de l'université Charles et doctorant à la Sorbonne et au CFRES de Prague. Il vient de publier un livre sur l'histoire de l'Institut français de Prague et c'est donc cette histoire qu'il retrace aujourd'hui pour les auditeurs de Radio Prague.
L'Institut français, d'abord, est conçu en tant qu'un lieu centralisant les activités françaises en Tchécoslovaquie. Donc, d'abord, c'est un lieu, et c'est la raison pourquoi, en sous-titre, j'ai entre l'enseignement et la propagande, parce que c'est un lieu où on propose l'enseignement universitaire ou semi-universitaire, mais en même temps, c'est un centre qui propose la propagation, la propagande de la culture française en Tchécoslovaquie. La date 1920 n'est pas inodin parce que c'est après la Première Guerre mondiale où toutes les activités françaises s'enracinent en Tchécoslovaquie. On a le lycée français qui est créé en même temps. On a les sections tchécoslovaques dans le lycée français. Et on a l'Institut français de Prague qui voit le jour en même temps que l'Institut des études slaves à Paris. Donc, mettons que c'est la pointe de la pyramide des activités culturelles françaises en Tchécoslovaquie. D'abord, cet institut français est un lieu où on propose des conférences en français au public large tchécoslovaque. On y enseigne la littérature, on y enseigne la civilisation française, on y enseigne l'histoire, on y propose des cours au grand public. Mais au fur et à mesure, et c'est ça ce qui est important pour l'histoire de cet institut, et ça fait un peu sa particularité parmi d'autres instituts français en Europe centrale, au fur et à mesure, on y propose aussi les études de droit, les études de technique, les études de médecine, et en fait, c'est ça ce qui fait la particularité de cet institut dans les années 30. Si on met des dates précises pour marquer l'évolution de l'Institut, on a 1920 comme la création. On a la première période de André Thibal, le premier directeur, jusqu'à 25. Et après, c'est Louis Eisenmann qui arrive en 25, qui reste le directeur jusqu'à 37. Et en fait, c'est lui vraiment le personnage clé de la coopération franco-tchécoslovaque à un moment donné. C'est lui qui donne la direction à l'Institut. C'est lui qui crée de cet Institut un centre actif, un centre très ouvert, un centre tout à fait particulier pour la propagande et l'enseignement. Sa politique, c'est vraiment de s'enraciner, de s'intégrer dans le système universitaire. Donc, à part la littérature, on propose les cours assez techniques, ça veut dire surtout les vocabulaires scientifiques pour des étudiants universitaires aux grandes écoles techniques de la Tchécoslovaquie et ensuite pour les médecins aussi. L'Institut devient un partenaire au système universitaire tchécoslovaque et son importance, c'est qu'il arrive à attirer, juste un peu avant Munich, en 38, à peu près 1000 étudiants inscrits régulièrement dans ses cours. Donc, c'est vraiment un centre très actif pour tout ce qui est la coopération culturelle entre les deux pays.
On connaît effectivement un peu l'histoire de l'Institut français de Prague comme un institut assez important en Europe centrale. On s'enorgueillit souvent que l'Institut français ici à Prague a accueilli des personnalités comme Mary qui va fonder plus tard le journal Le Monde. Pourquoi Prague? Est-ce que, à part le travail de Louis Eisenmann, est-ce qu'il y a une volonté politique derrière?
Il y a deux choses. Il y a une volonté politique française de s'intégrer dans ce pays nouvellement créé après la Première Guerre mondiale. Mais de l'autre côté, il y a aussi une demande tchécoslovaque, notamment de l'université Charles, mais aussi de l'école technique. Et l'intérêt, pourquoi on coopère avec l'Institut du point de vue tchécoslovaque, c'est parce que le français devrait remplacer l'allemand en tant que la langue de communication internationale. Donc, on choisit le terrain de l'Institut en tant qu'une base de communication avec l'étranger.
Est-ce qu'il y avait une concurrence malgré tout? L'anglais était déjà la langue internationale. Comment ça se passait pendant l'entre-deux-guerres ici?
Évidemment, il y avait une concurrence, mais en même temps, en Dans l'entre-deux-guerres, la France a une conception politique culturelle à l'étranger qui est de loin la plus précise, la mieux conçue. Il y a bien sûr l'Institut italien, il y a l'Institut américain, il y a l'Institut anglais aussi, mais qui n'ont pas du tout la même place parce que c'est plutôt des activités personnelles, individuelles, de quelques personnalités qui sont amateurs d'une langue ou de l'autre. Mais il n'y a pas derrière une vraie politique culturelle, une vraie subvention officielle.
Les gens qui travaillaient pour les instituts français, que ce soit à Varsovie, Prague, Saint-Pétersbourg, étaient des universitaires et ils faisaient partie de ce plan, de cette nouvelle conception de la politique culturelle qui était une nouvelle diplomatie culturelle ou en tout cas quelque chose de très planifié, stratégique. Est-ce que les universitaires avaient l'impression ou se rendaient compte qu'ils étaient un petit peu les instruments d'une politique internationale ou est-ce qu'ils étaient d'accord avec ça ou est-ce qu'il y avait des critiques sur leur propre rôle?
Je pense que du point de vue français, il y a déjà deux positions. Il y a ceux gens qui enseignent et qui vivent à Prague, qui font partie du corps de professeurs réguliers, et ceux qui viennent pour des missions scientifiques. Donc ceux qui restent à Prague, en général, c'est des jeunes docteurs, des jeunes agrégés, des jeunes gens qui commencent leur carrière. Pour eux, enseigner à l'Institut, ce n'est qu'un passage. Un passage pour une autre carrière, soit à l'étranger, soit en France. Beff Mary, sa réputation d'ailleurs, il l'a fait après en France, en créant le journal Le Monde. Son rôle à Prague était assez important pour la formation des jeunes juristes, souvent sortis des sections tchécoslovaques à Dijon ou à Nîmes. Mais en même temps, toute sa réputation vient après de tout ce qu'il devient après la guerre. De l'autre côté, vous avez, et ça c'est assez intéressant, on les appelle les missionnaires. Donc, on rentre bien dans le thème, dans le sous-titre, entre la propagande et l'enseignement. Comme si la France devait avoir une mission culturelle dans les pays slaves, c'est vraiment le terme de l'époque, comme si cette mission devrait être culturelle, comme si cette mission devrait être vraiment une propagation d'une culture contre une autre culture, la culture germanique. Et il est vrai que l'Institut, dans ces cas, sert en tant qu'un centre d'organisation des séjours des scientifiques français en Tchécoslovaquie. Grâce aux soins de l'Institut, on voit à Prague, dans l'entre-deux-guerres, tous les grands noms de la science française. Et on peut dire que l'Institut, en fait, a vraiment une position centrale dans l'organisation de la coopération scientifique, pas seulement culturelle, de l'entre-deux-guerres entre la France et la Tchécoslovaquie.